Scarf vient de se réveiller. Mardoché, le forgeron, le talif sur les épaules, a terminé la prière du matin. Il n'a pas pu se rendre à la synagogue, car on est venu lui amener, alors qu'il faisait encore nuit, trois chevaux affairés. Paul viendra-t-il lui donner un coup de main, comme hier et avant-hier? Il apprécie la présence et le travail de cet homme, dont il avait beaucoup entendu parler autrefois. Ah, pour sûr, Paul n'est pas fier. Il a étudié à Jérusalem avec le rabbi Gamaliel. Son père a tellement travaillé à Tarse que même les Romains s'en sont aperçus et ont fait de sa famille l'une des plus honorées du pays. Après une éclipse de plusieurs mois, on a su que Paul était retourné dans sa ville. On notait qu'il avait beaucoup changé. Sa conviction était intacte, mais quelque chose dans son regard dénotait que le cœur avait été touché. Il parlait avec flamme d'un royaume de Dieu, tout nouveau, auquel tous étaient appelés. Mardoché ne comprenait pas bien parfois, mais il admirait sans réserve l'homme qui, comme cela, à la bonne franquette, lui avait demandé un jour « Est-ce que tu accepterais que je vienne t'aider dans ta forge ?» Il n'avait pas fallu longtemps pour tomber d'accord. Esther procurerait la nourriture et Paul, en compensation, offrirait ses bras. On savait qu'il avait loué une petite maison, un peu à l'écart de la ville, et que la lampe à huile brûlait tard dans la nuit.
Des Juifs de Jérusalem, au regard étrangement semblable au sien, lui rendaient parfois visite. Mais le plus clair du temps qui restait à Paul, après son travail, il le consacrait à la méditation et à la prière. L'Évangile continuait partout à faire son chemin. Même en Antioche, la grande ville, la communauté grandissait, les croyants se multipliaient. La majorité des nouveaux disciples provenaient des religions païennes qui, peu à peu, laissaient voir au grand jour le vide de leur contenu. Les histoires de famille des dieux de l'Olympe apparaissaient de plus en plus comme des contes à dormir debout, capables certes d'amuser les enfants, mais inaptes à donner un sens à la vie. Pierre décida qu'il était temps d'envoyer quelqu'un là-bas. On choisit Barnabé, un garçon intelligent et solide sur le plan spirituel. Sa première analyse fut positive. Ce qui poussait à Antioche était de qualité. Cependant, le travail s'avérait trop lourd pour un seul homme. Barnabé s'enfonça alors à l'intérieur des terres et alla chercher Paul. Ensemble, pendant une année, ils prirent en charge la communauté d'Antioche. Il est intéressant de savoir que c'est là que, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés par tous chrétiens.
Le pain que nous mangeons, n'est-il pas communion au corps du Christ? La coupe de bénédiction dans laquelle nous buvons, n'est-elle pas communion au sang du Christ? Donc, mes amis, soyons logiques. Tous, nous ne formons qu'un seul corps, et chacun est solidaire de chacun. Ce serait ridicule que la tête dise au bras « Je n'ai pas besoin de toi » ou que le pied dise à l'œil « Je peux me passer de tes services. » Pour qu'une chaîne existe, il faut que les maillons soient accrochés les uns aux autres.
Le passage des caravanes vers le nord permet d'avoir tous les mois des nouvelles de ce qui se passe à Jérusalem et dans toute la Palestine. Là-bas, ce n'est pas brillant. La sécheresse a tout dévasté. Les gens meurent comme des mouches, car le pain manque. Il faut faire quelque chose. À Antioche, les chrétiens ne sont pas très riches. Mais Paul et Barnabé les convainquent sans difficulté que le corps du Seigneur souffre dans sa terre. Les collectes s'organisent et l'on envoie argent et vivres vers Jérusalem. La situation politique s'est détériorée également. Hérode, encouragé par le Sanhédrin, a entrepris une persécution organisée contre la communauté. Après avoir mis la main sur Jacques, le frère de Jean, il lui fait couper la tête. Les pharisiens ne sont pas satisfaits. Il leur faut aussi Pierre. Le roi, qui sent que son trône est menacé s'il ne fait pas des concessions aux anciens du peuple qu'il gouverne, fait jeter l'apôtre en prison. Par un étrange concours de circonstances, Pierre se retrouve libre quelques jours plus tard. Il rentre chez lui et tous les croyants n'en reviennent pas de constater à quel point, quand Dieu veut quelque chose, Il sait organiser le monde et les gens de manière à ce que sa volonté se fasse. On a beaucoup apprécié le passage de Barnabé et de Paul dans la ville sainte. Les fonds qu'ils ont apportés ont fait mieux que dépanner les pauvres de la communauté. Ils leur ont montré qu'être disciple de Jésus, c'est n'être jamais seul devant les malheurs et les difficultés.
Les deux hommes repartent à Antioche. En leur absence, les chrétiens ont été pris en charge par Siméon et plusieurs autres, parmi lesquels, il ne faut s'étonner de rien, un ami d'enfance d'Hérode. Après avoir fait raconter à Paul et Barnabé interminablement leur voyage en Judée, multipliant les questions, s'émerveillant des nouvelles, les croyants d'Antioche proposent une prière de remerciement. Au premier rang de l'assemblée, un enfant se met à parler. « Mettez à part Paul et Barnabé. Je les ai destinés à une mission particulière. » Pas de doute, c'est l'Esprit de Dieu qui s'exprime. Les anciens de la communauté ont compris. Ils consacrent Paul et son compagnon. Ils sont désormais appelés à partir plus loin, toujours plus loin.
À celle-ci, les départs des navires sont liés à la fois à la régularité du trafic à l'intérieur des terres et à la fantaisie du recrutement des esclaves pour les équipages. Il ne faut pas moins d'une semaine à Paul et à Barnabé pour atteindre Chypre et faire voile vers Salamine. Tout à fait spontanément, ils logent dans le quartier juif et c'est dans les synagogues qu'ils prêchent le royaume de Dieu. Peu de temps après, on les retrouve à Paphos. Là, ils doivent lutter contre l'influence pernicieuse d'une espèce de sorcier qui tente de dresser la foule contre eux. Ses efforts sont réduits à néant et l'on voit le gouverneur même de la ville se joindre au nombre des disciples du Christ. Paul et Barnabé peuvent partir. La graine a été semée. À Antioche de Pisidie, la synagogue est pleine pour le sabbat. À peine arrivés, Paul et Barnabé ont pris contact avec les responsables spirituels du lieu. Ils ont donné des nouvelles, narré les péripéties de leur voyage. Pour les juifs de la capitale de la Pisidie, c'est une bouffée d'air du pays que ces deux hommes apportent. On leur offre donc de prendre la parole.
Juifs, mes frères, vous tous qui adorez Dieu, écoutez-moi. Dieu, nous le savons, a choisi notre peuple pour en faire son peuple. Alors que nous étions prisonniers chez les Égyptiens, nous sommes devenus, grâce à lui, un peuple nouveau, qu'il a fait sortir d'Égypte par la force de son bras. Dans le désert, il a continué à prendre soin de nous pendant 40 années. Nous sommes arrivés en terre de Canaan. Le Très-Haut nous donna des juges pour gérer notre peuple. Puis, nous avons voulu un roi. Ce fut Saül, de la tribu de Benjamin. À cause de son infidélité, Dieu lui enleva son trône et le remplaça par David, dont vous connaissez l'histoire, à la fois belle et parfois lamentable. Dieu, lui, resta fidèle. Il avait promis à David que le Messie naîtrait parmi ses descendants. Eh bien, c'est arrivé. Le Sauveur annoncé, c'est Jésus de Nazareth. Avant lui, Jean le Baptiste a prêché la pénitence dans le désert. Mais il a reconnu qu'il n'était pas le Messie que l'on attendait. Mes amis, c'est à nous que Dieu a envoyé son message de salut. Mais les habitants de Jérusalem et les chefs du Sanhédrin n'ont pas compris que le Messie n'était plus à attendre, qu'il était là, parmi eux. Ils se débrouillèrent pour faire condamner Jésus à mort par les Romains. On le cloua sur la croix. Il y est mort et on l'a enfermé dans un tombeau. Nous sommes en plein dans les prophéties d'Isaïe.
Mais Dieu l'a fait lever vivant du royaume des morts. Il est apparu à plusieurs de ses disciples que je connais. Il m'est apparu à moi aussi, qui suis vraiment le dernier des derniers, puisque j'ai essayé de détruire la communauté des fidèles. Aujourd'hui, je vous le déclare, ce que j'ai compris, je veux vous le faire partager. C'est une question de vie ou de mort. La loi de Moïse, c'est fini. Personne, grâce à elle, ne peut être sûr que ses péchés sont pardonnés. Avec Jésus, c'est différent. Il nous assure que nous sommes réconciliés avec Dieu. Avec lui, nous sommes sauvés. Comprenez-vous ? Sauvés !
Dans la synagogue, c'est le remue-ménage. Pour certains, c'est l'illumination à découvert. Parle-nous encore, disent-ils à Paul. Fais-nous entrer dans cette vie qui te brûle au plus profond. La plupart des résistants sont furieux. La presse en religion qui dérange. Et puis, quelle garantie ces farfelus de Paul et de Barnabé donnent-ils ? Ce sont de beaux parleurs, mais on est loin de ce que les anciens annoncent depuis toujours. Paul est navré. Il a fait tout ce qu'il a pu. Mais si les Juifs d'Antioche se refusent à écouter, cela signifie que le nouveau peuple de Dieu dépasse les frontières d'Israël. Le voyage se poursuit à Iconium, Derbé et Lystre. Les visages qui les accueillent sont loin d'être souriants. Les nouvelles circulent vite. Attention, ces hommes sont dangereux. Les païens qui ne sont pas encombrés par les préjugés ne comprennent parfois pas mieux que les juifs ce que Paul et Barnabé essaient de leur dire. Les miracles accomplis par les deux disciples sont interprétés comme une descente en humanité des divinités locales. On veut leur tresser des couronnes et immoler des animaux devant eux. Quelques-uns, préparés par l'Esprit Saint, saisissent que le royaume de Dieu est arrivé. Ils sont baptisés. Puis Paul et Barnabé partent plus loin en laissant des responsables sur place. Au bout de semaines et de semaines d'aventure, c'est le retour à Antioche en Syrie. La communauté s'est développée, mais elle est travaillée en ce moment par d'étranges doctrines dont le premier effet est d'inciter les croyants à revenir en arrière. On raconte que, bien sûr, Jésus est le Messie, mais que cela ne dispense pas ses disciples d'observer toute la loi, y compris la circoncision. Les fidèles d'origine grecque ou romaine ne se sentent pas très à l'aise. Se soumettre à 18 ou 30 ans à cette opération n'a rien de très réjouissant, d'autant moins qu'après tout, on dit par ailleurs que la loi tout entière est contenue dans le précepte de l'amour de Dieu et du prochain. Que faut-il faire ? Paul déciderait bien. Depuis longtemps, sa conviction est faite. L'évangile est pour tous et sans condition. Mais l'unité est plus importante que toute chose. Il ira donc à Jérusalem pour consulter Pierre et les autres.
Chez nous, la communauté est divisée. Certains prétendent qu'il faut observer toute la loi de Moïse, et en particulier la circoncision.
Ils ont raison. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais lui donner tout son sens. Est-ce que ce qu'a dit Moïse ne vaut plus rien ?
Moi, Moïse, je le connais par ce que tu m'en as dit, Samuel. Avant, je ne connaissais rien, ni de la loi, ni des prophètes. Et pourtant, quand je me trouvais chez Corneille le Romain, l'Esprit Saint est venu sur moi, comme sur les autres.
Mes frères, cela fait beaucoup de temps que Dieu m'a fait la grâce de me choisir et de me confier le message de l'Évangile du Christ. Ce qui m'a frappé, c'est que le Très-Haut regarde le cœur de l'homme et accueille dans ses bras quiconque l'aime de toute son âme, et ceci indépendamment de sa race ou de son pays. Notre ami a raison, l'Esprit Saint est descendu indistinctement sur les Juifs ou sur les païens. Pourquoi imposer à des gens le joug d'obligation que nous n'avons pas pu nous-mêmes supporter ? C'est la grâce du Seigneur Jésus qui nous a sauvés, pas la loi.
La majorité des chrétiens des communautés du Nord
ne sont pas de notre peuple, mes frères. Ils ne savent rien de notre loi. Et pourtant, quand leur cœur est prêt, Dieu suscite parmi eux des dons qui sont merveilleux. Leur vie change. Ils renoncent à leurs idoles, à leurs mauvaises habitudes de malhonnêteté et de luxure. Ils croient en Jésus, tout comme nous.
Tu as raison, mon frère. Mais pour t'éviter d'autres ennuis, je vais dicter une lettre que tu remettras aux croyants d'Antioche. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus une foi aussi précieuse que la nôtre. À vous, grâce et paix en abondance par la connaissance de notre Seigneur. Afin que règne parmi vous la concorde, nous avons décidé, l'Esprit Saint et nous, de ne rien vous imposer de la loi, à part quelques préceptes. Pour éviter les confusions, il serait mieux que vous ne mangiez pas la chair des animaux sacrifiés aux faux dieux. Il n'est pas bon non plus que vous consommiez le sang ou la viande des bêtes étouffées. Abstenez-vous des désordres du sexe. En un mot, tenez-vous éloigné de ces choses-là et allez de l'avant.
Amen. Paul et Barnabé repartirent rassérénés. Leurs intuitions avaient trouvé leur confirmation dans la communion de l'Église. Pierre avait parlé avec la sagesse que lui conféraient à la fois ses qualités humaines et la mission que le Maître lui avait confiée de confirmer ses frères dans la foi. Grâce à la fougue de Paul et au charisme de Pierre, l'Évangile pouvait s'élancer hors de l'Asie mineure et frapper aux portes même de la Grèce et de Rome. À Antioche, la vie continue, sereine, et le travail est bien loin de manquer. Paul et Barnabé ne peuvent cependant s'empêcher de penser à tous les disciples qui sont restés derrière eux lors de leur premier voyage. Ils savent que les difficultés ne doivent pas manquer en ces lieux où les communautés juives s'opposent avec persévérance à toute prédication de la bonne nouvelle. Tous les deux décident donc de partir pour les encourager. Barnabé veut adjoindre Marc au voyage. Paul n'est pas du tout d'accord. Marc est encore trop jeune. Barnabé insiste. La discussion risque de s'envenimer. Dans ces conditions, il est mieux de se séparer. Barnabé ira à Chypre avec Marc. Silas accompagnera Paul en Cilicie. Les voyageurs sont accueillis partout avec amitié et tendresse. Ils portent des nouvelles de tous. N'ont-ils pas vu Pierre et les douze et Marie, la mère de Jésus ? Paul et Silas sillonnent le pays, le bâton à la main, et s'arrêtent à Troas, fatigués, un soir d'été. Paul vient de succomber au sommeil.
Viens chez nous en Macédoine. Viens à notre aide.
Paul se réveille. Quel est ce jeune grec qui l'a ainsi interpellé avec une voix étrangement semblable à celle qu'il entendit à quelques kilomètres de Damas ? La Macédoine, c'est la porte de l'Europe. Aller jusque-là, c'est pénétrer au cœur de la culture grecque, dans une société païenne, corrompue jusqu'à la moelle. L'échec est presque certain. Le cœur des deux amis n'a pas une seconde d'incertitude. Ils doivent partir. C'est le Christ lui-même qui leur fait signe. Il veillera à leur préparer le chemin. Ils profitent d'un navire marchand qui fait voile pour Néapolis. Ils ne s'attardent pas dans ce port. Leur objectif, c'est Philippe, la capitale de la Macédoine. Inutile de dire que personne ne remarque ces deux voyageurs, pauvres et couverts de poussière, qui n'ont à opposer à l'intelligence et au raffinement de la culture grecque que le scandale et l'indigence de la croix de leur maître.
Le jour du sabbat de cette semaine-là, nous sommes sortis avec Silas, hors de la ville, afin de trouver un endroit pour prier. Nous pensions qu'au bord du fleuve, nous trouverions un coin tranquille. Nous y rencontrâmes des femmes qui, elles aussi, voulaient profiter de la fraîcheur. L'une d'elles s'appelait Lydie. Elle venait de Thyatire et vendait de la pourpre. Très vite, nous comprîmes qu'elle croyait en Dieu, à la manière dont elle nous écoutait. Les paroles que le Seigneur m'inspira ouvrirent son cœur, et elle demanda à être baptisée avec toute sa famille.
Il y avait en ville une jeune esclave qui faisait gagner beaucoup d'argent à son maître. Elle avait le don de prédire l'avenir. À peine avait-elle aperçu Paul et Silas qu'elle avait commencé à crier. « Ces hommes sont des envoyés de Dieu. C'est eux qui vous porteront le salut. » La maison où habitaient les apôtres était proche. À peine mettait-il le nez dehors que la voyante commençait à hurler et à ameuter le voisinage. Paul comprit que ce talent importun ne venait pas de Dieu, qu'il s'agissait de quelques puissances obscures. Par des prières et des invocations, il chassa l'esprit mauvais de la jeune esclave, qui fut ainsi libérée. Pour le patron, c'était la fin du pactole. Il n'y alla pas par 36 chemins et organisa contre Paul une expédition punitive. Au détour d'une rue, il fut agressé et battu jusqu'au sang avec Silas qui l'accompagnait. Une fois de plus, la maison de Lydie s'ouvrit pour eux et ils passèrent quelques jours à se rétablir. Loin de les abattre, les épreuves les confortaient dans le désir de pousser plus avant leur rencontre des peuples et des régions qu'ils sillonnaient. Après avoir salué leurs nouveaux amis, les voyageurs s'acheminent vers Thessalonique. Là se trouve une synagogue. Paul ne manque pas de pratiquer son approche habituelle. Il va d'abord au fils de la maison d'Israël. Il explique longuement les prophéties et les livres de la loi et conclut que Jésus est le Messie annoncé par l'Écriture. Ceux qui croient sont peu nombreux. La majorité de la communauté juive réagit comme à son habitude. Il faut fuir, et fuir vite.